Force Info. 20h-21h, les informés, Victor Mattet.
Et parlons à présent de ce chiffre, celui de l'inflation au mois de mars à plus de 2,3% sur un an. C'était 3% en février, un ralentissement donc dont on va parler ensemble également avec Alexandre Delaigue. Bonsoir.
Bonsoir.
Professeur d'économie à l'université de Lille, la décrue, elle avait commencé en début d'année, se poursuit donc. Comment est-ce qu'on l'explique? Uniquement par la baisse des prix de l'énergie?
C'est un mélange de plusieurs choses. D'abord, ce qu'on peut constater, c'est que ce n'est pas seulement en France. L'inflation, elle ralentit partout. Elle ralentit dans la zone euro. Elle a ralenti aussi aux États-Unis. Et il y a deux choses qui se passent. Premièrement, effectivement, ce qui avait poussé l'inflation au départ a arrêté de pousser. Les prix ont monté, les prix des carburants ont monté, mais maintenant, ils ont arrêté de monter, ils se sont stabilisés. Et deuxièmement, l'action des banques centrales a eu aussi un effet de ralentissement de l'activité économique qui, lui aussi, a contribué à réduire l'inflation.
L'inflation qui avait bondi au moment, on s'en souvient, du déclenchement de la guerre en Ukraine il y a 2 ans, la guerre est toujours là, mais plus l'inflation.
L'inflation, c'est quand les prix augmentent et continuent tout le temps d'augmenter. Là, ce qui se passe, et c'est peut-être aussi quelque chose qui fait que le ressenti n'est pas tout à fait la même chose que ce qui est mesuré. Là, les prix ont monté, ils ont atteint un certain niveau, mais ils ont arrêté d'augmenter. Du moins, leur augmentation ralentit. Il y a toujours une hausse des prix, mais elle est à un rythme beaucoup moins élevé qu'auparavant. Et donc, dans ce point de vue-là, les prix ont monté une fois. Ce qui était à craindre, en fait, c'est qu'on rentre dans ce qu'on appelle une boucle, c'est-à-dire les prix du carburant et toute une série de choses augmentent. Du coup, ça conduit à une augmentation des salaires. Du coup, ça conduit à une augmentation des coûts des entreprises. Ça fait augmenter les prix d'autres choses et ça crée un espèce de phénomène de boule de neige. C'est un petit peu ce qui s'était produit dans les années 70 et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé au début des années 80 avec 15% d'inflation. Là, ici, on a eu la hausse initiale et puis ça s'est arrêté d'augmenter. On reste maintenant à un niveau de prix qui est plus élevé.
Alexandre Delaigue, est-ce que l'on sait si cette baisse va se poursuivre?
Alors, ça, c'est toujours extrêmement difficile de le prévoir. Vous savez que la prévision en matière économique, c'est difficile. Néanmoins, il y a quand même une analyse, il y avait deux approches de cette question de l'inflation. Une première, c'est que c'était quelque chose qui allait être temporaire, parce que ça s'expliquait à cause d'un choc. Une deuxième approche, c'est que c'était quelque chose qui allait être beaucoup plus profond, qui risquait de durer longtemps. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce soit aux États-Unis ou en Europe, le scénario d'une inflation temporaire, d'un pic, ce scénario semble être celui qui gagne. Et donc, si on reste dans cette idée, et si on part du principe que c'est plutôt le scénario d'une inflation temporaire qui l'emporte, dans ce cas-là, on devrait assez rapidement revenir à des niveaux d'inflation de l'ordre des 2-3% qui correspondent à ce qui est l'objectif des banques centrales et qui est ce à quoi on était à peu près habitué au cours des 2 dernières décennies.
Oui, 2% objectif affiché par le gouvernement. Est-ce que ce ralentissement de l'inflation, c'est un peu une lueur d'espoir par rapport au reste du panorama économique actuel, le déficit en hausse, les milliards d'économies à réaliser, etc.?
Alors oui, c'est clairement une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle dans le sens où ça va surtout permettre à la Banque Centrale Européenne de cesser d'augmenter les taux d'intérêt, de cesser d'agir pour ralentir l'économie. D'accord ? Et donc, la Banque Centrale Européenne va donc avoir les coups des franches. Il y a déjà maintenant un certain nombre, en particulier le gouverneur de la Banque de France, qui a dit qu'il était possible peut-être même que dès la prochaine réunion le 11 avril, la Banque Centrale Européenne commence à abaisser les taux d'intérêt, puisqu'elle n'a plus besoin d'avoir des taux d'intérêt aussi élevés dans la mesure où l'inflation est plus faible, et donc les taux d'intérêt réels commencent à atteindre des niveaux beaucoup plus raisonnables. C'est surtout dans ce sens-là que c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de faire toutes ces choses qui sont assez difficiles. Les taux d'intérêt plus élevés, les politiques plus restrictives, on a moins besoin de les faire et de ce fait, donc, la baisse de l'inflation donne un petit peu une sorte de bouffée d'air pour la situation économique. Ça ne règle pas, bien sûr, toute une série des autres problèmes, mais ça reste quand même bien évidemment un indicateur favorable.
Alexandre Delecq, vous restez avec nous dans les informés. Je me tourne vers vous, Véronique Reitschult. Est-ce que ce thème de l'inflation intéresse les internautes aujourd'hui?
En fait, c'est un sujet de tempo. Quand je regardais les volumes, on a 4 fois plus de messages aujourd'hui pardon, sur le déficit par rapport au sujet de l'inflation. Donc je pense qu'il y a quelques temps, on aurait eu effectivement énormément de messages autour de la baisse de l'inflation et les gens s'en seraient forcément réjouis. Là, il y a, et voilà, on en a parlé, mais 4 fois moins que le sujet du déficit. Et globalement, ça a été un peu éclipsé par un sujet qui est beaucoup plus fort sur cette gestion et l'inquiétude que ça suscite. Et on peut même imaginer, en tout cas, quand on regardait les messages des militants et les reprises, on peut même se dire que pendant la campagne européenne, on va sans doute plus parler du déficit que du pouvoir d'achat, qui était, a priori, la vraie préoccupation des Français.
Et qu'est-ce que disent justement les Français sur le déficit aujourd'hui?
Alors, sur le déficit, en revanche, ils sont extrêmement inquiets. On a d'ailleurs sorti un sondage pour le Figaro hier où on voyait que les Français considèrent que à 82%, ils pensent que la notation qui va baisser sur l'économie française va avoir des conséquences graves sur l'économie française. Et même 48% disent, même pour ma situation personnelle, ça aura une incidence. Ils sont extrêmement inquiets aussi parce qu'ils disent, on ne voit pas de solution. Ils n'ont pas forcément confiance dans le gouvernement, mais globalement dans les politiques. Et d'ailleurs, les rares messages qu'il y avait aujourd'hui sur l'inflation en soi, ils disaient, mais de toute façon, c'est pas les politiques, c'est la réalité, comme l'a très bien expliqué notre expert, c'est que, c'est pas forcément les actions du gouvernement, c'est plus un mouvement global. Donc, pour eux, le vrai sujet où les Français, le gouvernement et où on peut faire quelque chose, c'est sur le déficit, sur la dette, qui les inquiète beaucoup plus paradoxalement que la notion de pouvoir d'achat comme ça l'était il y a quelques temps.
Marie-Estelle Pech, voilà, il y a des mauvaises nouvelles qui font, avec le déficit, qui font qu'on n'arrive même pas à se réjouir, on va dire, quand il y a des bonnes nouvelles.
D'autant plus que ce ralentissement de la hausse des prix, par exemple sur l'alimentation, ça se voit à peine. Je voyais des estimations qui parlaient de recul des prix potentiels sur l'alimentation de moins 0,2%. Bon, faut vraiment, c'est un petit peu sur le. Et puis on a des par exemple, en tout cas sur l'alimentaire, des produits qui montent, des produits qui baissent, mais des produits qui montent aussi. Donc de toute façon, pour le consommateur, pour le Français qui va dans son magasin toutes les semaines, ça n'est pas visible,
ça n'est pas palpable.
C'est peut-être pour ça qu'on n'en parle pas tant que cela. Ça, c'est très important d'un point de vue économique à moyen et long terme, mais pas dans le quotidien des gens aujourd'hui encore.
Un commentaire à Madame Mostafavi.
Après, votre économiste expert sera sans doute plus expert que moi sur cette question, mais néanmoins, j'ai l'impression que justement, ce ralentissement de l'inflation n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le déficit, parce que ça fait quand même moins de recettes fiscales après pour le gouvernement, puisque mécaniquement, quand il y a de l'inflation, il y a plus de recettes de TVA, il y a plus d'impôts sur les entreprises, et donc, ça fait plus de recettes pour le pays, et on a vu, d'ailleurs, c'est ce que note l'agence de notation Moody's, dont on parlait tout à l'heure, qui risque de donc dégrader la France au fin du mois d'avril, on a un problème sur justement les rentrées, les recettes. C'est quelque chose qui pose problème et pour lequel on n'a pas du tout de solution.
Vous confirmez, Alexandre Delecq?
Alors, je peux revenir un petit peu sur un certain nombre de ces différents points. Une chose d'abord qui est tout à fait vraie, que votre dernière intervenante vient de dire, c'est qu'effectivement, une forte inflation a tendance à faire réduire le poids de la dette par rapport au PIB. La raison est relativement simple. Imaginez que tous les revenus de tout le monde soient multipliés par 2 et que tous les prix en même temps soient multipliés par 2. D'accord, un peu comme une sorte de passage à l'euro à l'envers. Tous les prix sont multipliés par 2. Dans ce cas-là, vous avez toujours la même dette à rembourser. Et donc, votre dette par rapport à votre revenu diminue. Donc, ce phénomène-là, bien sûr, la réduction du poids de la dette en cas d'inflation ne va pas se produire. Maintenant, ce qu'on peut quand même noter, c'est que le gouvernement a dû aussi mener énormément de politiques de dépenses pour accompagner l'inflation. On a beaucoup discuté au mois de janvier de cette question de l'indexation des retraites, par exemple, qui a conduit à une forte augmentation d'environ 15 milliards du poids des dépenses de retraite. Ça, c'est quelque chose dans lequel le gouvernement transmet dans ses dépenses l'inflation. Et donc, le phénomène par lequel l'inflation améliore un peu la situation des finances publiques doit être nuancé. Pour revenir aussi sur ce que disait Marie-Estelle Pech, c'est sûr que les gens ont vu que les prix ont monté, mais on pourrait quand même se souvenir du moment où il y avait la guerre d'Ukraine, où les prix, moi je me souviens du prix du carburant à la pompe qui était passé de 1,20€ à 1,80€. Et là, on le sent. Là, maintenant, ça reste à 1,80€ depuis longtemps. Donc, c'est sûr qu'on y pense moins, mais si ça passait à 2,50€, je peux vous garantir que les gens seraient très inquiets de l'inflation.
Oui. Merci beaucoup Alexandre Delegue. Vous restez avec nous pour la seconde partie des informés. On se retrouve dans un instant.
20h, 21h, France Info, les informés, Victor Mattey.
La seconde partie des informés, elles sont toujours dans le studio de France Info. Amdam Mostafavi, directrice adjointe de la rédaction de l'Express, Véronique Reissoult, présidente de Backbone Consulting, et Marie-Estelle Pêche, rédactrice en chef société à Marianne, avec nous également toujours. Merci d'être là, Alexandre Delegue, professeur d'économie à l'Université de Lille. Tiens, on attend aussi, Alexandre Delegue, les fameuses notes des agences de notation en avril qui pourraient dégrader la note de la France. Si cette dégradation arrive, cela aura des conséquences concrètes ou pas sur notre économie?
La dernière fois qu'il y a eu de telles réductions de la note de la dette de la France, pour être clair, ça n'a eu absolument aucun effet. La seule chose que ça a fait, c'est que ça a permis d'écrire des éditoriaux sur le fait que la France allait avoir beaucoup de problèmes, mais quand on regarde, ça n'a eu aucun impact sur le taux auquel le gouvernement français empruntait. Il faut noter que ce n'est pas spécifique d'ailleurs à la France. Il y a eu une réduction de la note, par exemple, des États-Unis à la période de Donald Trump. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et c'est un peu la même chose. Ce qu'on constate, c'est que ces notes, elles arrivent après la bataille. Les marchés de la dette publique sont d'énormes marchés. Il y a énormément d'intervenants. Ils savent déjà. Les notes ne leur apprennent pas grand-chose. Donc, il est assez peu probable que ces notes viennent changer quoi que ce soit.
On parlait du déficit. Est-ce que cela joue sur l'attractivité de la France, en revanche?
Ça pose un certain nombre de questions, mais là encore, il y a beaucoup de pays dont on ne se pose pas tellement la question de l'attractivité, dans lesquels il y a eu une très forte augmentation de la dette publique et une très forte augmentation des déficits et des niveaux de déficit très élevés. Le problème, en fait, c'est que le déficit, c'est le résultat d'une certaine situation, d'une économie qui, en ce moment, est assez déprimée. Il y a un certain nombre de problèmes concrets qui expliquent la situation des déficits. Ça fait si on regarde, ça fait 5 ans qu'il n'y a pas eu un budget équilibré en France. Les déficits et la dette ont tendance à augmenter. Tout ça, c'est plus des symptômes de ce que les gouvernements ont du mal à faire un certain nombre de choix politiques. C'est plus des symptômes que réellement des causes d'un éventuel problème d'attractivité. Après, c'est la façon dont on va essayer de réduire ces déficits qui peut, elle, poser un certain nombre de problèmes pour l'attractivité. Il est clair que si, par exemple, on décide d'agir sur la fiscalité dans un certain nombre d'activités, il est à craindre qu'il y ait des gens qui décident que ces activités vont devoir s'effectuer. Si ça réduit la protection sociale, ça va aussi jouer sur l'attractivité. Donc je répète, c'est plus un symptôme qu'autre chose.
Et ce que vous disiez il y a quelques instants rejoint d'ailleurs un article de l'Express, je me tourne vers vous, Amdam Mostafavi, un article sur les efforts que la France ne ferait pas finalement. Cet article dit en clair que l'État n'a pas mené jusqu'ici de vraies réflexions sur le rôle que doit mener son administration au 21e siècle. Qui c'est qui est visé en priorité?
Non, mais c'est le fait, c'est ce qu'on décrypte dans cet article, c'est que c'est un phénomène qui n'est pas récent. Enfin, Alexandre Delegue le disait, ça fait 50 ans que la France, ça fait un demi-siècle que la France n'est pas à l'équilibre. Donc c'est un vrai phénomène structurel, et c'est vrai que les politiques, par définition, comme les gouvernants changent très régulièrement, ils ont quand même tous en commun de ne pas trouver de solution à long terme et de ne pas aller s'attaquer aux problèmes structurels. Ça peut être la bureaucratie, ça peut être tout un tas de choses qui sont très spécifiquement françaises, parce que évidemment, ce problème de déficit, on n'est pas les seuls à l'avoir, mais c'est vrai qu'on a quand même une petite spécificité française qui est l'ampleur de ce déficit. Et puis, de toute façon, pendant 3 ans, on nous a dit « quoi qu'il en coûte ». Quoi qu'il en coûte, voilà ce qu'il en coûte. Donc, de fait, il faut changer la façon dont on aborde le problème.
On n'a pas anticipé, Marie-Estelle Pêche, finalement, les conséquences de ce « quoi qu'il en coûte ».
Sans doute fallait-il le faire à ce moment-là, ce « quoi qu'il en coûte ». Mais ça a permis quand même à l'économie française... on a eu finalement assez peu de défauts de paiement, etc., des entreprises à ce moment-là. Mais en revanche, moi, ce qui m'étonne, c'est la panique. On a l'impression que c'est un peu panique à bord au gouvernement. Et les solutions qui sont apportées pour l'instant me laissent un peu circonspecte. Je souscris pas mal à ce que disait aujourd'hui François Amril, qu'on a interviewé, qui est le patron, le syndicaliste président de la CFE-CGC, pour les cadres, en gros, et qui disait, il parlait de mesures populistes quand Gabriel Attal parle de réduire la durée du chômage. Parce que d'abord, il pointait le fait que le chômeur, évidemment, ça ne représente pas un corps constitué. Il a toujours mauvaise presse. Tant qu'on n'a pas soi-même été touché par le chômage, on a tendance à voir ça avec pas mal de distance. Et ça ne va pas mobiliser les foules. Hein. C'est sûr que c'est plus facile d'aller taper sur les chômeurs plutôt que de voir où on pourrait réduire éventuellement certaines dépenses publiques dans tel ou tel ministère. Il y a quelque chose d'un peu une forme de solution de facilité, d'autant plus que, il le rappelle, le régime d'assurance chômage, il est excédentaire depuis 1997. L'excédent est à chaque fois, l'État va, pour financer diverses dépenses, va puiser dans ce régime, dans cet excédent de l'assurance chômage.
Véronique Reissoult, est-ce que sur les réseaux sociaux, on perçoit peut-être un décalage? C'est un sujet très technique, en même temps l'économie française, le déficit, etc., mais qui fait peur tout de même très concrètement aux Français.
Qui est très technique et qui fait peur, mais c'est toujours étonnant parce que sur les réseaux, globalement, vous avez toujours des spécialistes, des gens où vous êtes toujours étonné de voir à quel point ils sont pointus. Alors ils reprennent les travaux des économistes plus savants, mais globalement, les gens comprennent mieux les mécaniques économiques qu'on imagine. Après, les mesures populistes, disons qu'il y a des mesures qui ont une forme d'adhésion spontanée. Je voyais que dans le sondage, on avait 54% des Français qui disaient « bah oui, réduire le nombre de fonctionnaires, c'est sans doute une des solutions de réduire de façon...
Oui, sauf que quand on leur dit « on va fermer une classe » et que ça concerne leur enfant...
En fait, quand on regarde les commentaires des uns et des autres, ils disent que c'est un sujet profond de réorganisation, de réallocation et de mettre à plat les choses et le sentiment qu'il y a une forme de décalage entre ce qu'ils vivent au quotidien et la réalité de ce qui est dépensé, sachant que ce qui sort constamment, et ça ne baisse pas, c'est la dégradation des services publics qui est mis en parallèle de la dette qui grandit, et en disant mais en fait comment on fait pour avoir un service public qui se dégrade et une réalité d'un déficit qui augmente. Donc ça veut dire qu'il faudrait peut-être poser des choses, mais c'est effectivement impopulaire, donc voilà, ça doit expliquer cela. Pour autant, les Français le réclament en grande partie.
Un dernier mot peut-être, Alexandre Delegue, sur les perspectives économiques, un mot si l'on pouvait pour rassurer les Français.
Déjà, le sujet du jour, c'est que cette réduction de l'inflation, c'est quand même quelque chose qui devrait donner un minimum d'optimisme. Je pense que fondamentalement aussi, dès lors que le problème de la dette publique se pose depuis si longtemps, peut-être que là maintenant on en parle et on est d'un seul coup, on a un petit peu une espèce de panique, mais faut pas paniquer non plus. Un pays comme le Japon, par exemple, qui est extraordinairement prospère et dans lequel les gens vivent particulièrement bien, a eu une dette publique quasiment le double de la nôtre depuis les 25 dernières années. Ils s'en sont sortis. Donc, oui, bien sûr, il va y avoir un certain nombre de choses qui vont devoir se passer. Il est probable que le problème de fond, c'est qu'on a globalement un État qui coûte un peu plus cher que la richesse qu'on a. Et donc, soit il faut qu'on arrive à devenir beaucoup plus riche pour pouvoir se payer cet État, soit il faudra qu'on ait un ajustement dans l'autre sens. On peut espérer plutôt de le faire par le haut que par le bas. Mais dans l'ensemble, il faut aussi un petit peu nuancer cette inquiétude. Là, d'un seul coup, on parle la dette, mais on peut se souvenir que des espèces de moments où d'un seul coup, on parle de la dette, c'est pas la première fois qu'on les a. Et puis, il y a 10 ans, on avait un peu les mêmes discussions avec un niveau de dette publique qui était beaucoup plus bas. Et donc, sans tomber un peu dans un espèce d'optimisme excessif, je pense qu'il faut prendre la mesure des choses et cette espèce de panique qu'on peut avoir vis-à-vis de la dette, un peu comme, vous savez, le lapin qui voit la voiture qui arrive dessus et qui ne peut plus bouger, c'est pas forcément la meilleure réaction à avoir. Donc je pense que oui, il y a de quoi en discuter, c'est un vrai sujet, mais c'est pas non plus, il y a pas de quoi se couvrir de cendres et se battre la tête en disant que ça va être la catastrophe.
Bon, merci alors pour votre optimisme raisonnable, dirons-nous. Merci Alexandre Delegue d'avoir été ce soir dans Les Informés, professeur d'économie à l'Université de Lille.